Je réponds vite aux questions. Mon père, comment le Saint-Esprit fait-il pour nous révéler un évangile? Exerce-t-il sur l'écrivain une emprise si forte qu'il lui dicte et les mots, et les virgules, et les points? Non! C'est toute la question de l'inspiration, ça, et de la révélation. C'est un traité très intéressant dans un domaine. Et puis c'est un traité qui a été du reste repris, qui est très important. Nous sommes des instruments vivants. La grâce ne supprime pas la nature. C'est pour ça, du reste, que vous trouvez dans l'Écriture, il y a un seul Saint-Esprit, mais il y a des livres écrits très différemment. Cette différence provient de l'instrument. Saint Jean n'écrit pas de la même façon que le prophète Amos, que Saint Luc, que Saint Marc. Vous allez me dire, c'est parce que l'Esprit Saint a mis beaucoup plus de volts pour Saint Jean, moins pour Saint Luc. Non, non. L'Esprit Saint se sert d'une œuvre commune de l'écrivain d'Esprit Saint. Une œuvre commune telle que je ne peux pas distinguer ceci et l'Esprit Saint, ce livre. Non. C'est propre d'un instrument vivant, pas d'instrument mort. Votre bic est un instrument mort. Alors il ne fait que limiter votre manière d'écrire. Mais il le limite quand même. On peut discerner si c'est un bic, ou si c'est un stylo, ou si c'est une plume. Alors, ça c'est toute la question très importante. Très, très importante. On sait que ce qu'il écrit est vrai. Mais c'est sûr que l'Esprit Saint laisse, comme la grâce qui ne détruit pas la nature, respecte infiniment, infiniment, l'instrument. C'est pas une dictée, vous voyez. C'est pas une dictée. Ça peut s'imprimer d'une façon telle ça peut ressembler à une dictée. C'est pas une dictée, c'est jamais une dictée.
Oui. Pour l'Apocalypse aussi, quand il est dit écrit, est-ce que ça n'est pas considéré comme...
Oui, mais ça quand même, il a réveillé Saint Jean. Il a pris Saint Jean, il n'a pas pris un imbécile du coin. Et en disant, tu n'as qu'à écrire. S'il a pris Saint Jean, ça vaut que quand même, Saint Jean avait tout son acquis. C'est sûr que l'Apocalypse est d'un type comme du reste toute la littérature apocalyptique. Il y a quelque chose de spécial. Mais Dieu se sert de nous de multiples manières. Vous voyez, tous les degrés de l'horizon de l'étude. L'Esprit Saint se sert de nous de façon extrêmement variée. Et dans l'inspiration aussi. Et je crois qu'on ne peut pas dire, vous voyez, que c'est une dictée, au sens absolu. Il peut y avoir des mots qui s'imposent. Ah ça oui. Et qu'on ne pourrait pas mettre autre chose. Oui. Vois, regarde. Écris. C'est très mystérieux, ça. C'est un problème important par rapport à la révélation, c'est sûr, et par rapport à l'écriture, et par rapport à la tradition, vous comprenez? Le Christ vivait-il sous la dictée du Saint-Esprit? chez lui où l'inspiration était la plus forte et la plus parfaite. Vous voyez, même les paroles de Jésus, il y a eu toute une tradition. Et Dieu, Jésus a voulu ça. Ça a été gardé dans le cœur de Marie. Ça ne me scandalise pas du tout que les points, les virgules, c'est pas Jésus. Et je reviendrai tout à l'heure à la question de la tradition, parce que c'est très important. Quelle est l'autorité d'une encyclique en matière morale? Vous voyez, là aussi, c'est tout le poids de la tradition et tout le poids du dogme. C'est un rappel, ces encycliques-là. Et alors, ces encycliques-là précisent certains aspects, par exemple, de façon très précise sur la contraception. Mais là, on peut dire que ce serait souverainement imprudent. Or, l'imprudence est une faute grave dans certains domaines, dans des matières graves. C'est très grave. J'ai pas le droit de lâcher. Vous voyez? Mais je ne peux pas dire, vous voyez, que c'est révélation sans absolu. Il y avait déjà dans un concile, c'est déjà beaucoup plus. Et dans le concile, la partie forte, c'est le dogme. C'est pour ça que certains veulent relativiser le concile Vatican II. Il n'y a pas eu de dogme. Mais ça n'a pas d'importance. C'est l'enseignement de l'Église. Avant de refuser la liberté religieuse, il faut être sûr que, et tous ceux qui l'ont travaillé ont vu que, je sais par un théologien qui est mort maintenant, c'est un dominicain, il a passé des nuits entières avec Paul VI pour savoir si tel décret du concile ayant été voté pouvait être signé par le. Il m'a dit que Paul VI ne lâchait rien, tout était revu. Il a passé des nuits entières avec le pape. Oui.
Cette souveraine imprudence dont vous parlez, est-ce qu'elle relève de la. Est-ce que ça rejoint la prudence humaine ou une prudence qui est liée à la foi?
Liée à la foi, c'est évident. La foi, c'est la prudence du chrétien. C'est le chrétien qui lit l'encyclique. Et la foi est à la charité. Donc si je me mets constamment dans cette imprudence, au bout d'un certain temps, il y a une répercussion sur toute ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne demande d'être prudente. Il n'y a pas de faute grave. Vous voyez ? Sur tel ou tel point particulier, les pères de l'Église ont souvent des conceptions différentes, tout à fait d'accord, sur le péché originel entre autres. À partir de quoi, de quel moment, puis-je affirmer que tel enseignement relève de l'autorité de la tradition, s'il n'y a pas de consensus unanime? Oui, si c'est vrai que c'est des problèmes comme ça qui sont assez délicats, mais je crois que sur tous les sujets importants, les précisions ont été faites. J'aimerais savoir s'il y a un cas particulier que vous voyez sur lequel, de fait, les pères de l'Église ont dit des choses différentes et qu'il n'y ait aucune précision. Parce que pratiquement tout a été précisé ensuite. Le Concile de Trente a donné des. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas, le Concile de Trente. Du moins, on ne l'aime pas, pas moi, mais beaucoup ne l'aiment pas. Parce que le Concile de Trente a précisé les choses. C'est un des conciles qui a précisé le plus. Le point de vue moral. Le point de vue même dogme. Oui. Est-ce que vous voyez un point?
C'est plus dans une recherche théologique. Oui. Notamment.
Si par exemple, prenez sacerdoce royal, commun aux fidèles, et sacerdoce ministériel. Parce que le Concile a demandé aux théologiens de travailler ça.
Oui, c'est ça. Mettons une question qui n'aurait pas été travaillée encore. Oui. C'est que le théologien veut travailler.
Oui. Il est très libre.
J'ai une hypothèse de recherche.
Oui.
J'aimerais trouver dans la tradition.
Laquelle ? J'aime.
Non, non, mais tu vois, par exemple, quand vous interprétez sur le calice. Le Christ qui dit repousse ce calice.
Ah oui. Très bien, oui, ça, tout à fait.
On pourrait se dire.
Je suis en théologie mystique.
Oui, oui. Est-ce que là, je peux utiliser. Il me suffit de trouver un père de l'Église pour dire c'est bien comme ça qu'on peut interpréter ?
Non, c'est pas plus. C'est une autorité, pas plus. Je dis ça. Voilà mes raisons pourquoi je dis ça. Mmh. Une conclusion, théologie mystique. Je suis très heureux d'avoir un père de l'Église avec moi. Mais ça fait un poteau indicateur. Pas plus. C'est pas parce qu'il y a un seul père de l'Église.
À partir de. C'est tout bête, mais à partir de combien je pourrais dire c'est l'autorité d'Église.
Suffrage universel est à donner qu'à personne d'autre qui a nié ça. D'autres ont donné d'autres interprétations, mais n'ont pas supprimé celle-là. Et je peux voir que les autres interprétations ne sont pas tout à fait. Je recourrai tout là très fort, vous voyez. C'est ce que je vais voir tout à l'heure, quand on verra la diversité des parties de la théologie. La théologie mystique revient énormément à la parole de Dieu. Les conclusions de la théologie mystique sont plus proches de la parole de Dieu que celles de la théologie scientifique. Vous voyez ?
Mais même, si vous voulez, c'est pour préciser cette notion de tradition, parce que c'est pas facile.
Ah non, c'est pas facile, c'est toujours assez flou. Fond, ça doit rester flou. Comme une tradition.
Comment ça peut être une autorité ? Parce que
une autorité.
C'est confirmé par le Concile de Trente, mais alors à ce moment-là, l'autorité, c'est le Concile.
Ben oui.
Comment la tradition par elle-même peut être autorité si précisément on ne sait pas à partir de quel moment on peut dire c'est la tradition.
Est-ce que le Concile de Trente fait autorité pour vous ?
Ah ben oui.
Alors ?
Mais en tant que Concile.
En tant que Concile.
La tradition comme
en tant que Concile. Mais le Concile enseigne et a enseigné sur la tradition. L'enseignement d'Église n'est pas la même chose que la tradition, puisque l'enseignement d'Église repose sur la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu, et la manière dont Jésus a vécu. Je vois que tout de suite, dès le début, c'est pour ça que j'insistais tellement ce matin, ce passage, vous voyez, c'est bien d'y revenir, j'allais y revenir, ce passage du Christ, qui est l'autorité suprême, tous les chrétiens sont d'accord là-dessus. Et le sommet de la révélation. Tous les chrétiens sont d'accord là-dessus. Bon, on comprend très bien. L'Épître aux Hébreux. Il y a un passage voulu par la Providence dans l'économie divine entre le Christ mort sur la croix et les évangiles qui me rapportent ce fait. C'est à partir de là qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui les herméneutiques. Parce qu'on a dit que de fait, le mystère du Christ crucifié, répété 20 ans après, ou 30 ans après, ils n'ont même pas été témoins. Et le témoin, il a tardé jusque l'an. Avant d'écrire. Alors, d'où l'herméneutique veut relativiser ça en montrant que c'est le procédé de notre cher Kuhn. Kuhn a fait ça. Hans Kuhn. Quel est le noyau absolument, vous voyez, sûr. Est-ce qu'on supprime la tradition ? Le livre d'Hans Kunz, je ne dis pas, il ne faut pas le lire en première année, hein. Surtout pas pour les sœurs. Hein. Parce que c'est sûr, il ne faut pas lire ça, ça leur donnerait de mauvaises imaginations sur ce qu'elles vivent. Et qu'on lise une fois, parce que c'est une synthèse de toutes les hérésies là-dedans. Et ça s'appuie sur Hegel.
Je voulais reprendre la question du frère Thomas. Il y a une question. donner un exemple de, qu'il n'est pas très, très sûr. Par exemple, moi je me suis fait beaucoup taper sur les taper dessus par les exégètes quand j'ai soutenu que le Christ avait la vision béatifique sur la terre, c'était de quoi? C'est la foi de l'Église.
Oh, c'est la foi de l'Église.
Mais il faut dire que la tradition a commencé au Moyen-Âge.
Tard.
Puis ensuite, les textes évangéliques ne sont pas sûrs, sont les interprétés de parents par an. Mais là, effectivement, on manque d'un critère. Et moi, je crois quand même que c'est ce que j'ai soutenu mardi. Ouais. Mais en fait, il n'y a que.
Trois exégètes
qui soutiennent ça. L'immense majorité
des exégètes. Dites-moi les trois. Hein? Vous.
Veillez. Et puis la poterie aussi.
Mais, ah, mais
la poterie, mais alors en prenant toute la conscience du Christ, de la science du Christ.
Donc, au fond, il y en a deux. Je crois qu'il n'y a que deux bons exégètes. C'est ça que je crois. En tant que théologien, j'ai le droit de dire ça. Le père Braun soutenait. Oui, mais il n'a pas écrit, il n'a rien écrit dessus.
Mais par Lagrange aussi, il y a beaucoup d'hommes. Mais...
Oui, par Lagrange aussi. C'est très récent, ça. Parce qu'au fond, il y a eu quand même, au point de vue, voyez, Bellarmin, mais le soutenait. Tout. Il y a quand même, vous voyez, quand on voit du Moyen-Âge jusqu'au, je sais pas, 18e siècle, 19e siècle, qu'on soutient ça unanimement, les théologiens, puis soudainement quelqu'un qui dit ça, bon, je mets ça très en doute. Je dis, j'attends que qu'ils viennent des saints canonisés. Alors s'ils sont des saints canonisés, je commencerai à me reposer le problème en me disant peut-être que, autrement, je les raisons de saint Thomas sont tellement fortes au point de vue théologique. Au point de vue exégétique, je comprends. Mais alors moi, je dirais que c'est une conclusion théologique qui jette sur le mystère du Christ une telle lumière, que celui qui voit ça en lisant l'Écriture, ça lui donne. Il dit, mais oui, c'est dans l'Écriture. Alors, exégétiquement, je comprends que c'est pas dans l'Écriture. Mais exégétiquement, c'est pas l'exégète qui me donne la mesure dernière sur savoir si c'est dans la signification de l'Écriture, c'est le sens de l'Église. Ah, vous êtes d'accord? Donc, c'est l'Église actuellement, je poserai la question au Saint-Père, je dirais, mais c'est évident. C'est la porte ouverte à tout ce qu'on a vu après. Exégète, à propos de Cana. Vous savez, ce fameux, ce livre qu'il a écrit, il en est mort du reste. Vous savez, il est mort dans une expédition là-bas. Il y avait un groupe, ils sont tous partis pour le ciel. Bon, c'était son salut du reste. Parce qu'il aurait continué d'écrire des livres comme ça, qui auraient fait beaucoup de mal sur le moment. Alors, il est parti rapidement. Je ne me rappelle plus de son nom, mais vous vous rappelez sûrement.
C'est pas Scheinman qui est mort.
Oui, c'est ça. Scheinman. Qui est mort là, dans une expédition, vous vous souvenez, à Péra. Alors, est-ce que cette mort, comme ça, tu vois, point de vue d'économie divine, est-ce que cette mort provenait de... Je n'oserais pas le dire, mais je vous le dis quand même. Je crois que c'est une très grande miséricorde de Dieu. Parce que quand ils sont partis dans cette perspective-là, on ne peut plus les arrêter. Il y a comme une espèce de... Très cruel. Il y a une lecture de l'Écriture qui devient complètement... Il y a un prisme. Alors, lire l'Écriture avec une bonne théologie, comme nous donne saint Thomas, je crois, nous donne sur l'Écriture un regard d'une pénétration unique. C'est juste. en temps, il y a certaines affirmations qu'il aime mieux pas trop entendre. Il a les clés. Bon. Alors oui, cette question-là montre que quand il s'agit de la tradition, c'est toujours très délicat, c'est le problème de la tradition. Mais je crois que c'est voulu par Dieu pour nous montrer que ces précisions dans la foi, c'est pas ça qui est premier. On croit aux personnes, au Christ, à son enseignement. Puis il y a des tas de choses secondaires. Bonnes pour des thèses. On n'en vit pas. C'est très net. Et la sagesse fait que, au bout d'un certain temps, il y a des choses secondes qui tombent. Croyez pas, Père Refus, qu'avec l'âge, on laisse tomber des tas de choses secondes. Puis on s'occupe uniquement des choses essentielles. Et le reste tombe. Alors que, dans l'université, on s'occupe d'une quantité de choses très secondaires. Parce qu'il y a des thèses qui sont là-dessus. Faut déterrer les gens. Pour montrer qu'ils ont existé. C'est le procédé des thèses, c'est ça qui est un peu... C'est un très mauvais système. Ça c'est le procédé de l'écriture. Parce que juger quelqu'un sur une thèse, qui est une thèse insignifiante, et parce qu'il a un doctorat, il peut enseigner. Mais on devrait regarder sur quel sujet sa thèse a fait. Si elle a fait sur des côtes poires, et enseigner la philosophie, la théologie, ou la philosophie à partir de là. Et à partir de là, ça vous donne la possibilité d'enseigner. Alors que si de fait, on devait passer un examen sur l'ensemble des c'était pas à cause d'une thèse, c'était sur le fait d'une connaissance générale, rectifiée, surtout. Beaucoup plus juste, et beaucoup plus vrai. Et c'est parce qu'une thèse, les forts en thème peuvent toujours la passer. Et c'est pas ça qui vous permet de juger l'intelligence de quelqu'un. Autant qu'il est capable, autant qu'on peut la juger, autant qu'il est capable d'enseigner. Mais ça, on ne pourra pas réformer ça. C'est impossible. Alors, on continue. Alors, on posait la question. C'est une question très, très délicate. Donc, vous voyez bien, l'autorité du philosophe, c'est en tant qu'il dit la vérité. Donc si je peux montrer que Blondel oublie une distinction essentielle entre être et vie, je vous lirai peut-être un passage de Blondel, je demanderai de m'apporter, parce que c'est intéressant d'avoir au moins entendu une fois dans sa vie, pour montrer que c'est pas très, très, très lumineux. Je peux montrer que là, il y a des distinctions fondamentales qui ne sont pas vues. Et donc, il ne peut plus jouer autorité pour une saine théologie. Et en face de tel théologien, je lui montrerai qu'il emploie cette philosophie qui n'est pas exacte. Et donc, en faisant ça, il diminue les conclusions. Il diminue la vérité divine. Parce que si la philosophie qu'on emploie est vraie, la vérité, il suffit de respecter le niveau de la révélation et le niveau de la philosophique. Une vérité ne peut jamais diminuer une autre vérité. Si on respecte la différence entre le point de vue, révélation et autre, ça peut expliciter, c'est tout. Ça ne peut pas la diminuer. Parce que c'est un même ligne, c'est homogène. L'homogénéité respectant une certaine diversité. C'est pour ça que le critère Aristote. Et saint Thomas a pris Aristote uniquement parce que c'était quelqu'un qui cherchait la vérité. Et uniquement à cause de ça. Heidegger cherche la vérité. Et je peux montrer qu'il y a quelque chose qui n'a pas saisi ce qu'on montrait ce matin. Mettre l'être découvert uniquement relatif à la pensée et non pas dans la réalité existante. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe. Une seule chose qui aide, c'est la pensée. Donc à ce moment-là, c'est l'être pensant qui est l'être. Et alors on ne peut plus expliquer la création. Alors, autre question, dans la même perspective, n'est-ce pas ? Toujours ces lieux théologiques. Il est mis dans mon papier les autorités théologiques, la parole de Dieu, le magistère, les théologiens. Alors, oui. Il y en a un que j'ai oublié. Hein. J'ai oublié de mettre dans la tradition les théologiens. Alors, ça fait partie, la liturgie, des encycliques, et à côté des encycliques, étaient les théologiens, les pères de l'Église. Alors, les pères de l'Église font partie de la tradition. Alors que les théologiens ne font pas partie, au sens strict, du mystère de la tradition. C'est ce qu'on voit dans la tradition dominicaine avec un théologien du XIVe siècle, Durand de Saint-Pourçain. Quand vous passez à Saint-Pourçain, vous voyez Durand. Il y avait un grand couvent dominicain qui était là. Et alors, Durand de Saint-Pourçain dit ceci, Thomas d'Aquin est un théologien, il n'est pas un père de l'Église. Je ne peux donc pas m'appuyer sur l'autorité de Thomas d'Aquin, parce qu'il n'est pas un père de l'Église. Saint Augustin passe avant. Et donc ce que je dois, c'est m'appuyer sur Saint Augustin. C'était le père Chenu qui m'avait dit, étudiez durant, ça vous intéressera beaucoup. Et j'avais préparé ma thèse avec lui. Et quand j'ai exposé au père Chenu cette théorie, le père Chenu m'a dit, il y a des choses justes, c'est très vrai, il y a des choses justes. Thomas d'Aquin n'est pas père de l'Église. Et pourquoi je prends Thomas d'Aquin? Pas parce qu'il est dominicain, pas parce qu'il est père de l'Église, mais parce que la plupart du temps, il dit la vérité. C'est en tant que chercheur de la vérité. Et je n'hésite pas sur certains points où je sais que saint Thomas s'est appuyé sur une tradition qui est périmée aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne suis pas là. Avec une très grande liberté. Et je dis toujours, Thomas d'Aquin est plus un éducateur que quelqu'un sur lequel on s'appuie. Il nous éduque, point de vue théologie scientifique. Alors, quelle est l'autorité des théologiens ? Je crois que c'est intéressant. Ou alors, ça relève ce qu'on posait la question. Hein. Tous les théologiens, jusqu'au, je crois, le milieu de ce siècle. Je ne sais pas quel est le premier théologien qui a dit que le Christ n'avait pas la vision béatifique. J'ai cherché, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je le cherche. Ça m'intéresse beaucoup. Je crois que c'est le jour. On a fait une théologie à base psychologique. Donc c'est assez récent, 50 ans. Avant, c'est unanime. Il y a l'unanimité des théologiens représente quelque chose dans la tradition vivante de l'Église. Vous voyez ? Parce qu'il y a la tradition des pères, puis la tradition continue. C'est ce que j'appelle la tradition vivante de l'Église. Les théologiens, après, ont une autorité moindre que les pères, c'est sûr. Les pères ont une autorité très spéciale à l'intérieur de la tradition. Mais quand tous les théologiens théologiens sont d'accord sur un sujet qui s'enracine chez les pères de l'Église. Alors, c'est une très grosse autorité. Et je crois que ça touche, là, presque, une tonnée de fois. Mais, quand les pères de l'Église n'ont rien dit, que c'est uniquement les théologiens à partir de telle date, vous voyez, il y a une question d'enracinement dans la théologie. Ça, je crois, à cause de la tradition. Parce que la tradition fait autorité dans l'Église. Et fait autorité dans l'Église. Je ne suivrai pas. Vous voyez, c'est le sens traditionnel du théologien que le père de Lubach souligne très fort. Qui est en premier lieu. Un théologien qui se jette toujours sur le dernier livre original du dernier théologien, je crois qu'il n'est plus dans la perspective chrétienne et catholique. Il dira des choses intéressantes, théologien. Très bien, je le regarderai. Ça m'intéressera. Je poserai un point d'interrogation. Est-ce que la tradition dit ça? Et si la tradition ne dit pas ça, si aucun ne dit ça, c'est quelque chose d'original, je me poserai la question, est-ce que ce qui est dit original est quelque chose qui s'ajoute comme une explicitation, sans nuire à ce qui était dit avant, ce qui est toujours bon signe. Tandis qu'au contraire, si ça se met en sept contrats de toute une tradition, attention. Mais se mettre en sept contrats au niveau théologique par rapport à une vérité philosophique, l'intelligence, la vérité, adéquation, vérité théologique. Je veux dire attention. D'abord, c'est un théologien. Ben, il n'a pas arrivé à la philosophie. Il doit se placer du point de vue philosophique pour. Sauf si le philosophe dit qu'il y a quatre personnes en Dieu. Alors là, il peut dire, c'est contraire. Mais le philosophe ne dira jamais ça. Mais le philosophe peut discuter sur la vérité. Et le théologien pourra alors à ce moment-là dire son opinion. C'est très bien, mais pas plus. C'est une opinion. Mais le théologien n'a pas autorité sur la philosophie. Mais il a autorité sur certaines affirmations du philosophe qui peuvent être en contradiction avec la révélation. Alors là, très bien. Comme ça n'a jamais été révélé, la question de la vérité. Vous voyez? Donc, il devrait, là, montrer qu'en philosophie, ce que fait Heidegger, il y a eu une erreur. Alors, on pourra discuter sur ce moment-là. Donc, vous voyez, situer la théologie parmi les autorités. Mais le théologien a autorité en tant qu'il attend la vérité. En tant qu'il est un témoin de la tradition. Mais ne demandez pas à la tradition une précision aussi grande qu'à l'écriture. Puisque le but de la tradition est autre chose. C'est de garder l'aspect amour présent dans la parole de Dieu. Comme des traditions familiales. Il y a des traditions familiales. Les traditions familiales, c'est fait de gestes, c'est fait d'attitude, c'est fait de politesse, c'est fait de goût. C'est tout ça la tradition. Et alors, au plan surnaturel, ce sont les gestes, c'est l'attitude, c'est la présence. C'est ça une tradition, c'est multiple, c'est divers. C'est très intéressant hein, de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la tradition? Posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition? Alors cherchez d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une tradition familiale? Qu'est-ce que c'est qu'une tradition politique? Qu'est-ce que c'est qu'une tradition éthique, morale? Qu'est-ce que c'est qu'une école? Vous voyez, toutes ces questions-là, il faut d'abord traiter ça en philosophie, ça n'a pas été traité. La différence entre le patrimoine et la tradition. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du patrimoine. Il y a un ministre du patrimoine. Il y a un douillard à ministre de la tradition. Alors, voilà. Tradition française. Alors, la question après, et je comprends très bien qu'elle vient tout de suite après. C'est la dernière question un peu de ce premier rapport, après nous allons entrer dans d'autres problèmes. Non, il y en a encore une autre que je traiterai avant. Le pluralisme théologique, les différentes approches des pères jusqu'aux théologiens contemporains. Alors, entre parenthèses, contemporains jusqu'à Jean-Paul II, de Lubach, Balthazar, Rahner, Barthes. Le pluralisme théologique, puisqu'on en parle beaucoup, le pluralisme théologique ne doit pas nous faire dire qu'il y a plusieurs vérités. La vérité reste la vérité. Il n'y en a qu'une, absolue. Et toute la révélation nous donne cette vérité. Et tous les philosophes, conscients d'être philosophes, cherchent la vérité. Donc on ne possède jamais la vérité. On la cherche. On la cherche. Et on est plus ou moins possédé par la vérité. Puisque les approches de la vérité sont multiples, il est normal qu'il y ait un pluralisme théologique. Ça peut être autrement. Il faudrait un théologien qui donne la vérité. Il n'y a personne. Même Thomas d'Aquin, c'est sûr. Je l'aide parce que c'est celui qui s'approche le plus. C'est celui qui m'en parle de la manière la plus précise, la plus nette. C'est pour ça que je l'aime. Mais j'accepte qu'il y a d'autres théologiens. Il ne faut surtout pas être exclusif. Et dans la mesure où on le peut, on essaie d'étudier d'autres théologies. Je vous dis, c'est la bonne aventure si on aime le Moyen-Âge. Les modernes. Alors, c'est très difficile, voyez, cette question très difficile. On y reviendra en fonction de la diversité des parties de la théologie. Et je crois que c'est une question qui s'impose. Le père de Lubach, il le dit lui-même, il n'a jamais voulu donner une sorte de synthèse théologique. Il n'a jamais voulu aller contre saint Thomas. Mais d'autre part, il se dit podomiste. Pour garder une certaine liberté, je comprends très bien. Est-ce qu'un théologien doit se dire thomiste? Non. Il se dit théologien d'église. Le théologien est plus que l'école. Il a une sagesse. Il peut dire, j'aime beaucoup saint Thomas, il m'a beaucoup apporté. C'est comme le philosophe. Quand on se dit philosophe aristotélicien, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque l'autorité est la dernière raison du philosophe. Donc c'est le serpent qui mord sa queue. On peut dire simplement, j'aime travailler Aristote parce qu'il m'apporte plus que n'importe quel autre. Et il m'a apporté beaucoup. Je ne vais pas réécrire Aristote. Ce serait complètement stupide. Complètement. Mais je cherche à le comprendre. Et il m'éduque. Parce que c'est un philosophe très, très, très rigoureux. Il y a un amour de la vérité de façon très particulière et très grande. Et c'est pour ça que j'aime, en tant que philosophe, dire je suis aristotélicien, ça signifie rien. Je veux dire, je suis un philosophe de l'expérience et qui s'appuie toujours sur la réalité. Voilà ce qu'on peut dire. Je peux dire que je m'aide Aristote, je me mets en opposition vis-à-vis de lui. Je dis pourquoi. Et je cherche à comprendre pourquoi. Et pour la théologie, c'est la même chose. Le théologien n'est pas une autorité. On est théologien du Christ et de l'Église. La tradition, l'Église et l'Écriture. Le Christ, la révélation. On est des serviteurs du Christ. Je crois que c'est très très important pour nous, ça. Oui. On aime saint Thomas. On se forme à saint Thomas. Et saint Thomas est un maître. Mais saint Thomas lui-même dirait, mais soyez théologien d'Église. Dans votre 20e siècle, vous avez quelque chose de nouveau à dire. Parce qu'à chaque période de l'Église, le théologien a eu quelque chose à dire. Vous voyez, je crois qu'il faut lutter contre ces fausses étiquettes. Il y a des écoles de formation. D'accord. On va privilégier dans cette école Aristote. Et on dira, pour bien comprendre Aristote, il faut regarder Platon. Et pour bien comprendre Aristote, regardons les succès d'année des autres philosophes. Dans cette école, on va privilégier saint Thomas. On va essayer d'abord d'être disciple de Thomas, pour bien le comprendre. Si on fait œuvre de théologien, on doit regarder ce qui vient après Thomas d'Aquin. Je n'ai pas le droit de ne pas regarder Vatican II. Je n'ai pas le droit de ne pas regarder Vatican I. Concile de Trente. Il n'y en a pas tellement. Hein. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'ignorer tous les théologiens. Non. Le théologien doit être beaucoup plus sensibilisé à la tradition que le philosophe. Le philosophe est assez libre par rapport à la tradition. Parce qu'il a la réalité et son intelligence. Mais par politesse pour les autres philosophes, c'est bon de montrer historiquement tout ce que les philosophes ont dit. C'est intéressant. Moi, ça m'apporte toujours beaucoup. Et le voir le jour où la substance a été diluée, désagrégation d'atomes. Le jour où l'acte et la puissance, distinction dans l'ordre de l'être, ont été complètement faussés. Ça, c'est intéressant, ça, parce que je vois les tournants, les nœuds. Mais le philosophe est très libre. Le théologien n'est jamais libre de la tradition. Jamais. Il est lié à la tradition. La tradition de l'Église. Pas la tradition de Luther, sauf si, alors c'est là la question, est-ce que la théologie implique nécessairement le point de vue de l'œcuménisme ? Ou est-ce que c'est un problème nouveau qui s'est ajouté, qui ne touche pas la doctrine profonde de l'Église ? Autrement dit, puis-je être un théologien sans regarder la théologie luthérienne ? Où je ne peux pas être un théologien sans avoir un œil sur la théologie de Barthes. C'est l'heure, donc je ne peux pas vous répondre.